Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'heure du crime. À la une de l'édition d'aujourd'hui, vous l'avez entendu, une histoire épouvantable, celle d'un colonel au-dessus de tout soupçon. Le temps quand même pour moi de vous dire qu'on est très heureux de vous avoir avec nous, avec toute l'équipe évidemment de l'émission, Perrine Suquet, Margot Agnès, et aujourd'hui Alexandre Cagzan qui est aux manettes de cette émission. Et on va donc vous raconter, avec mon invité Stéphane Bourgoin, l'histoire de Russell Williams, une histoire qui a bouleversé, et le mot n'est pas trop fort, le Canada. Un officier modèle, 23 ans de carrière, la guerre en Afghanistan, directeur d'une base secrète en Arabie Saoudite, pilote émérite, il a piloté l'avion de la reine d'Angleterre quand elle est venue en visite au Canada, pilote également du premier ministre du Canada. Bref, un homme au-dessus de tout soupçon, mais un des pires criminels sexuels de tous les temps. Bonjour Stéphane Bourgoin.
Bonjour Jacques.
Vous confirmez la comparaison, et il est vraiment dans le haut du panier des pires criminels que l'Amérique du Nord ait connu?
Probablement un des pires pervers que l'on puisse imaginer, surtout quand on a accès aux photos et aux vidéos des différentes scènes de crime.
D'ailleurs, nous y reviendrons, et ces photos, ces vidéos étaient tellement choquantes que avec l'accord général des magistrats et des avocats de la défense et de l'accusation, on a décidé de ne pas les diffuser au cours de son procès. Inutile de dire que cet homme-là est pour très très longtemps en prison. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je voudrais également vous dire que nous aurons dans le cours de cette émission l'éclairage de Michèle Agrapard-Delmas. Elle est psychologue, criminologue, expert judiciaire, et nous reviendrons avec elle sur l'aspect fétichiste criminel et sexuel de cet homme, Stéphane Bourgoin.
Oui, je dirais que d'ailleurs, le psychologue qui a été chargé d'examiner les vidéos, les photos et le colonel Russell Williams a par la suite craqué d'un point de vue psychologique, et il souffre de syndrome post-traumatique, et après avoir vu ses vidéos et ses photos, il a décidé totalement d'arrêter sa carrière.
Alors, on reviendra tout à l'heure plus en détail sur l'extraordinaire carrière de cet homme aimé de tous les soldats dont il a dirigé les bases pendant très longtemps, ses proches, ses supérieurs hiérarchiques. Personne dans la hiérarchie de l'armée n'avait pu soupçonner pendant 23 ans qu'il pouvait être un criminel, et pourtant c'est le cas. Alors on va tout de suite entrer, si vous le voulez bien Stéphane Bourgoin, dans les circonstances en fait qui ont amené à son arrestation, les circonstances de la disparition d'une jeune femme de 27 ans qui s'appelle Jessica Lloyd et qui habite dans une petite ville qui s'appelle Tweed dans l'Ontario.
Alors, il faut savoir que depuis quelques jours et même quelques semaines avant sa disparition, un proche voisin de Jessica Lloyd avait souvent remarqué la présence d'une camionnette blanche dans les environs immédiats de la propriété de Jessica Lloyd.
On est en janvier 2010.
Hein. 28 janvier 2010 pour la disparition de Jessica Lloyd.
C'est-à-dire que le 29 janvier au matin, elle va pas travailler, et les gens qui travaillent avec elle donc s'inquiètent, appellent, elle répond pas sur ses téléphones, ni fixe ni mobile, et donc on avertit la police, et c'est la police provinciale de l'Ontario qui va mener l'enquête.
Et c'est une époque, vous vous doutez bien, fin janvier 2010, il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace, il fait à peu près moins 15, et très rapidement, en interrogeant les voisins, justement, et ce voisin proche de Jessica Lloyd, les policiers s'aperçoivent que devant l'entrée de la maison, il y a des traces de pneus. Des traces de pneus qui ne correspondent pas au véhicule de Jessica Lloyd.
Et donc on va prendre des empreintes, évidemment.
On va prendre des empreintes, et on se rend compte assez rapidement que c'est des traces de pneus assez caractéristiques, appartenant à une camionnette, un van, de couleur blanche de marque Pathfinder.
Nissan Pathfinder.
Pathfinder. Ouais. Alors qu'est-ce que font les enquêteurs? Ils vont une semaine plus tard, se poster devant le péage de l'autoroute qui mène à la maison de Jessica Lloyd.
Mais précisons bien qu'elle a disparu. On ne sait
elle
pas ce qu'elle
disparu.
Est devenue.
On ne a, sait pas a, ce qu'elle
y
est
y
devenue.
Il n'y a pas de sang dans la maison.
Il n'y a pas de sang. Voilà. On se rend juste compte qu'un certain nombre d'objets et de vêtements et de bijoux ont disparu. Voilà. Et que... probablement, il s'agit d'un enlèvement criminel, puisqu'il y a effraction dans le sous-sol de la maison.
Alors, évidemment, les enquêteurs, de toute façon, n'ont que ce fil à tirer, ces empreintes de pneus, puisqu'ils n'ont rien trouvé d'autre. Alors, vous disiez donc, en fait, et c'est une technique appliquée par toutes les polices du monde, ils se disent, si la personne qui pilotait ce van passe régulièrement sur l'autoroute, qui est toute proche, voilà, on va essayer de l'arrêter.
Oui, d'autant plus...
Sans savoir si c'est évidemment le criminel, hein.
D'autant plus que c'est un chemin relativement écarté et que ce n'est pas un chemin que vont emprunter les automobilistes parce que il est difficile d'accès. Donc c'est forcément quelqu'un qui a probablement repéré les lieux et qui est familier des lieux.
Et ça, donc ils se mettent à la sortie de l'autoroute qui permet d'accéder à cet endroit.
Voilà. Et le 4 février, donc la disparition date du 29 janvier 2010. Pendant à partir de 19h le soir jusqu'à 6h du matin le lendemain, ils vont noter tous les véhicules qui passent par ce péage, filmer les plaques d'immatriculation, et à partir de là, ils vont découvrir le véhicule qui est impliqué éventuellement dans la disparition de Jessica Lloyd.
Ça, ils le savent donc le 4 février, c'est ce van en question et ils ont l'identité évidemment du propriétaire. Ils ont de la chance hein, d'ailleurs parce qu'il avait deux voitures je crois.
Il avait deux voitures particulières et deux voitures de fonction plus une voiture de son épouse. Et en règle générale, il n'utilisait pas très souvent la Nissan Pathfinder. Donc là, vraiment, c'est un coup de chance pour les enquêteurs.
Alors évidemment, les enquêteurs, on se met à leur place. Hein. Colonel Russell William, il se renseigne. Le patron de la base la plus importante du Canada, qui a fait la guerre d'Afghanistan, qui a dirigé une base secrète. Enfin, bref, un homme quand même au-dessus de tout soupçon. Alors, quelle va être leur technique d'approche ?
Alors, leur technique d'approche, ça va être de le convoquer dans les bureaux du commissariat, mais sans y mettre du tout la pression. Ils ne vont pas le chercher à son domicile. Ils lui demandent, le 7 février 2010, de passer dans les bureaux pour être interrogé, comme lui disent-ils, beaucoup d'autres personnes, afin de fermer un certain nombre de pistes.
Voilà, et le colonel Russell William va donc arriver extrêmement détendu, on le sait, parce que son interrogatoire a été filmé dès le début. Et au début, il lance à la caméra un large sourire, il s'installe devant les enquêteurs, il est vraiment tranquille, il est persuadé que personne ne peut prouver qu'il a tué, en fait, Jessica Lloyd. Comment ? Pourquoi ? Comment va-t-il passer aux aveux ? On va vous le raconter dans un instant avec Stéphane Bourgoin.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
L'affaire Russell Williams nous a été indiquée, faut que vous le sachiez Stéphane Bourgoin, pour vous c'est pas une découverte puisque vous êtes le spécialiste de la question, mais nous a été indiquée par un certain nombre d'auditeurs sur RTL.fr puisque vous le savez, vous pouvez chaque jour ou même la nuit si ça vous chante, aller sur RTL.fr à la page de l'heure du crime et puis là vous avez un bouton soumettez une idée à l'émission et on vous propose régulièrement si vous avez envie que l'on traite à l'antenne une affaire qui vous a particulièrement frappé de nous dire de quoi il s'agit et pourquoi évidemment cette affaire vous a frappé. Et donc c'est revenu régulièrement et puis on s'est dit bon il faut vraiment qu'on aille un jour plonger notre nez dans cette histoire que nous ne connaissions pas ni Perrine Suquet ni moi et quand on a lu à peu près ce qu'on vient de dire ensemble on s'est dit mais c'est comment se fait-il que cette histoire nous ait échappé ? Bon, c'est un mystère, mais enfin, c'est comme ça. Alors, évidemment, Stéphane Bourgoin, au Canada, ça fait la une de la presse à cause de la qualité, évidemment, de militaire de haut rang de cet homme, qui avoue, alors, assez rapidement, il y a eu 10 heures d'interrogatoire, vous avez visionné, d'ailleurs, on peut encore visionner aujourd'hui sur Internet un montage de ce premier interrogatoire au cours duquel il va progressivement craquer.
Oui, il y a Sur les 10 heures, il y a 2h39 qui sont disponibles, notamment sur YouTube. Mmh. Bon, en VO, sans sous-titres. Mais peut-être vous pouvez même activer les sous-titres, hein, parce que ça arrive quelquefois pour certaines vidéos.
Alors, il est très détendu, comme on l'a dit, parce que, bon, voilà. Et comment ça va se passer? Alors, comment les enquêteurs de la police provinciale de l'Ontario vont-ils procéder?
Alors, faut déjà comprendre que c'est une pièce qui a été vraiment fabriquée par des spécialistes et des psychologues des interrogatoires qui forment d'ailleurs nos gendarmes en France aux techniques d'interrogatoire.
La pièce dans laquelle il est interrogé.
Oui, 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 c'est une pièce vraiment quasiment dénuée de meubles, assez étouffante parce qu'elle est très petite. Il y a juste une table et deux chaises. Ils ne se font pas face à face. Hein. Ouais. Le policier est face à la table et au mur. Et sur le côté droit, il y a Russell Williams qui s'installe. Et il y a des caméras qui filment tout en continu. Ouais. Et en fait, la technique d'interrogatoire, dès le départ, le policier est relativement familier, souriant, appelle le colonel par son prénom, Russell, et va commencer petit à petit à lui poser des questions. Est-ce qu'il possède un véhicule Pathfinder? Est-ce que lorsqu'il va quelquefois à la chasse ou à la pêche, il utilise tel type de vêtements? Est-ce qu'il porte des bottes spéciales?
Ah. Et ça, c'est très important.
Très important, vous allez le comprendre pourquoi. Oui. Et très très rapidement, le policier qui a un mini dossier devant lui ouvre ce classeur et va commencer à montrer des photos au colonel Williams et va lui demander: pouvez-vous m'expliquer pourquoi on retrouve la trace de vos pneus dans la neige près de la maison de Jessica Lloyd? Ensuite, il va volontairement laisser un grand silence s'instaurer, hein, parce que le colonel est complètement interloqué, n'avance pas vraiment d'explication. Le policier va réitérer sa question, puis il ouvre à nouveau une autre page et va montrer la trace ensanglantée d'une semelle de botte qui est tout à fait caractéristique, qui est la même taille et de bottes qui appartiennent à Russell Williams.
Donc ils se sont renseignés en amont, quoi.
Voilà, ils se sont renseignés en amont. Et là, il reste silencieux, hein, pendant de longues minutes. Puis le policier dit, vous savez, maintenant, on a obtenu un mandat de perquisition et d'ici 2 heures, des policiers vont fouiller vos 2 domiciles, à la fois à Tweed et à Ottawa, puisque 2 mois auparavant, il s'est installé avec son épouse dans un autre domicile, aussi à Ottawa.
Entre-temps, évidemment, il a dit qu'il connaissait pas Jessica Lloyd, qu'il n'était jamais venu...
Oui, oui, bien sûr, il s'est enferré.
Donc il s'est enferré, déjà, oui, puisque eux ont un témoin qui ont déjà vu la voiture dans le passé, avant
tout
la disparition.
Fait, hein.
D'accord.
Et là, ils vont lui dire, vous savez très bien ce qu'on va trouver chez vous. Il laisse aussi en suspens.
C'est un coup de poker, là, non?
Oui, c'est un petit peu un coup de poker. Ouais. Et ils lui disent, qu'est-ce que va penser votre épouse de l'arrivée en masse de policiers à votre domicile, alors que vous êtes suspecté dans la disparition et le meurtre d'une autre jeune femme?
Et ils sortent déjà l'autre jeune femme parce qu'ils ont évidemment, ils se sont intéressés.
Oui, bien sûr, à d'autres disparitions, et meurtres
et un meurtre de 2009 notamment.
Oui, d'autant plus que cette femme appartient à la base aérienne de Trenton, dont il est le chef.
Hein. D'accord. Oui.
Donc ils vont petit à petit comme ça le travailler au corps. Et là, il commence déjà à perdre pied et il dit: qu'est-ce que je pourrais faire pour protéger mon épouse? Et là, le policier lui dit, nous dire la vérité.
Ouais. Et puis plutôt qu'on détruise la maison, nous dire où on peut trouver ce qu'il y a à trouver, quoi.
Et donc ça intervient au bout de 4 heures d'interrogatoire.
D'accord.
Et pendant les 6 heures restantes, en fait, là, il avoue. Et il va raconter tous les différents crimes qu'il a pu commettre, c'est-à-dire deux meurtres,
ouais.
deux viols, ouais. des dizaines d'agressions sexuelles,
ouais.
et en tout, plus de 80 cambriolages à caractère fétichiste depuis septembre 2009 à fin janvier 2010. Donc ouais. sur une
Il s'introduisait dans des maisons, par les sous-sols souvent, pour aller voler de la lingerie féminine, d'abord en l'absence des personnes qui habitaient là, souvent des femmes seules, mais après, il y a eu une montée en puissance sur laquelle on reviendra, parce que il y a eu 92, je crois exactement, effractions répertoriées. Et à un moment, il prend de plus en plus de risques, puisqu'il s'introduit dans les maisons, alors qu'il sait que la propriétaire y est. Hein.
Oui, d'ailleurs, il l'indique dans ses carnets que pour lui, c'est une excitation supplémentaire de savoir que la propriétaire de la maison est endormie lorsqu'il s'introduit dans cette maison ou cet appartement.
Alors, encore un mot, Stéphane Bourgoin, avant la pause. Il a avoué, il a dit « Oui, j'ai tué Jessica Lloyd, oui, j'ai tué la caporale dont le nom m'échappe. »
Marie-France Comeau.
Marie-France Comeau, en 2009. Et les policiers lui disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait du corps ?»« Ben, je vais vous montrer, il demande une carte. » On lui apporte une carte de la région, il va pointer un endroit à 13 kilomètres de la ville de Tweed, et les enquêteurs vont y aller avec lui, et ils n'ont pas trop de mal à trouver l'endroit, je crois. Hein. Il s'est débarrassé du cadavre.
Oui. Il faut comprendre aussi à quel point il était fétichiste. Par exemple, il a volé à une seule femme de 24 ans 186 vêtements différents.
D'accord, mais ce que je voulais dire, là, pour rester dans les circonstances de cette fameuse journée du 7 février 2010, ça se termine par un voyage sur place et sur ses indications. On découvre le cadavre. Évidemment, le lendemain, ça fait la une de la presse et c'est la suite de l'histoire que nous allons vous raconter dans un instant encore avec Stéphane Bourgoin.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
L'abominable histoire du colonel Russell Williams, un militaire au-dessus de tout soupçon, comme on le disait tout à l'heure avec Stéphane Bourgoin. C'est vrai que je rappelais tout à l'heure 23 ans de carrière militaire, mais vraiment, j'allais dire, pas un défaut, enfin quelqu'un d'intègre, un professionnel, quelqu'un qui est respecté et aimé des gens avec qui il travaille. Vous êtes intéressé un peu à sa biographie avant de devenir militaire, ce qu'il faut cet homme-là ?
Alors oui, en fait, il est assez atypique du profil des tueurs en série en général, qui ont souvent subi des maltraitances, des abus durant leur enfance, des familles fracassées, ouais. des divorces qui se passent mal, alcoolisme ou drogue. Là, c'est une existence tout à fait normal, entre guillemets.
Voilà.
Il y a juste eu un moment, un divorce, mais qui n'est pas mal vécu, puisque à un moment d'ailleurs, Russell Williams adopte l'identité de son beau-père. Et il ne s'appelle pas Williams, il s'appelle Svorka, du nom de son beau-père. Mais par contre, ce qui est très curieux, et on le sait que depuis sa condamnation, qu'il a été ami au lycée, à l'université, ils ont suivi les mêmes diplômes à l'université de Scarborough. Ils étaient amis, ils étaient voisins à Scarborough avec le plus grand tueur en série canadien de l'histoire, Paul Bernardo, qui avait épousé Carla Homolka. Mmh. Ils ont été surnommés au Canada les Ken et Barbie du crime. Et entre l'âge de 15 et 18 ans, Paul Bernardo et Russell Williams ont été les meilleurs amis du monde.
Avant qu'évidemment que Paul Bernardo soit reconnu comme un tueur en série, quoi.
Oui, et qui était aussi au départ un violeur en série, Paul Bernardo.
Comme Russell Williams.
Alors, est-ce qu'ils ont à cette époque-là, durant l'adolescence, partagé un certain nombre de fantasmes ou autres? Je sais que les enquêteurs de l'Ontario travaillent toujours sur cette piste et ont depuis ouvert un dossier supplémentaire pour Russell Williams depuis quelques mois. Il le suspecte peut-être d'un autre meurtre à Trenton en 2001, celui d'une jeune femme, Kathleen McVicar, âgée de 19 ans, qui a été violée et poignardée de manière extrêmement violente.
Voilà, et il y a des correspondances, on va dire, dans le rituel, dans la manière de tuer, en fait. fait, entre toutes ces affaires. Alors, on ne sait rien. Apparemment, il ne s'est rien passé sur le côté Afghanistan. Il a dirigé cette base secrète en Arabie Saoudite. Là, apparemment, c'est clean, hein, si j'ose dire. Et après, il y a le retour à la. Et il y a ce qui est un peu un bâton de maréchal, hein, de devenir le commandant de la plus grande base aérienne canadienne, Trenton, avec ses meurtres. Alors, justement, on va venir. En fait, on fait la chronologie à l'envers. Il a avoué pour Jessica devant les policiers. Puis il rajoute, bah oui, en 2009, c'était moi, parce qu'on lui pose la question à propos de la caporale Marie-France Comeau. Alors, c'est encore une histoire épouvantable. Cette jeune femme militaire avait été hôtesse de l'air donc dans des missions militaires, et lui qui faisait beaucoup de liaisons avec des appareils spécialisés pour les hauts dignitaires de l'armée ou les hommes politiques l'avait repéré.
Il l'avait repéré, cette femme âgée de 37 ans, et là on sait aussi a posteriori par ses aveux que pour lui il y avait autant d'excitation à surveiller la maison de la caporale Marie-France Comeau des semaines avant. Il est allé à de multiples reprises autour de la maison à surveiller ses habitudes. Il s'est même introduit deux fois avant de commettre le meurtre en novembre 2009, dans les semaines qui précèdent, dans la maison où il avait déjà volé de la lingerie féminine.
Oui. Alors comment, et on sait malheureusement, il a avoué de toute façon ce meurtre, mais il y a pire, si j'ose dire, c'est qu'il y a la vidéo, il avait conservé sur le disque dur de son ordinateur une vidéo tellement terrible qu'elle n'a pas été diffusée au cours du procès, où il a, on peut le dire je crois, filmer l'agonie de sa victime, et c'est une agonie qui a duré plusieurs heures.
Oui, puisqu'il la bat après l'avoir violée, elle est ligotée parce qu'il est fan aussi de bondage, c'est-à-dire qu'il va ligoter avec des nœuds assez compliqués les jeunes femmes qui l'agressent ou qui le tuent. Il va leur aussi mettre un bandeau sur les yeux. Mmh. Et il y a véritablement la préméditation, puisqu'on le voit, il emporte avec lui une grande bâche en plastique qu'il place à l'endroit où il va commettre ses viols et ses meurtres. Oui. Donc c'est tout à fait une préméditation.
C'est extrêmement organisé, bien sûr.
Une organisation criminelle, mais en même temps, il commet un certain nombre d'erreurs, puisque là aussi, il va laisser trace de sa botte ensanglantée dans les sous-sols où il y a le garage, le parking du véhicule de la caporale.
Ouais, d'où en fait la certitude des enquêteurs quand ils l'arrêtent qu'ils sont en train d'arrêter quelqu'un qui a déjà tué en fait. Un mot encore, Stéphane Bourguin, parce que dans quelques instants on va faire une pause, et puis après cette pause on va avoir l'éclairage sur si tant est qu'on puisse, je parle d'éclairage et pas d'explication, hein, de Michel Agrapard-Delmas, mais il avoue, et même mis devant cette vidéo épouvantable où il a enregistré les supplications de sa victime, où il lui dit en gros quoi, ta gueule, et il la tue quoi, en l'étouffant, hein, il n'a pas manifesté le moindre remords, ni dans ses interrogatoires, ni au procès.
Au procès, s'il lira une lettre où il demande pardon aux familles de victimes, mais on peut penser que c'est une stratégie mise en place par son avocat. Ouais. Lors de l'interrogatoire, à deux reprises, il se dit déçu de ses actes. Mmh. Voilà.
Voilà, donc ce qu'il fallait dire, mais il faut dire que c'est vraiment une histoire vraiment pas comme les autres. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous demanderai s'il y a eu des criminels comparables, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. On parlera ensemble du procès, parce qu'il s'est passé des choses pendant ce procès qui a été évidemment suivi par tous les médias canadiens. Mais là, après cette pause, on va retrouver donc Michel Agrapard-Delmas, psychologue et criminologue, expert auprès des tribunaux.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors je lui ai dit, il me faut une serrure à triple tour et qu'on ne puisse pas ouvrir, même au chalumeau. C'est pour ma petite chatte Angora qui attire les chats des voisins, et c'est malin, chat. Ça peut ouvrir une porte même fermée, surtout si c'est pour aller flirter. Il m'a dit, on va installer une bonne serrure inviolable par les chats et par les cambrioleurs pendant qu'on y est. Il est parfait, mon artisan serrurier.
Nous avons tous une bonne raison de choisir l'artisanat. L'artisanat, première entreprise de France. Ouah, Jacques, t'avais vraiment grossi quand t'as arrêté de fumer. Et là, t'as fondu, t'es hyper beau, bien foutu, j'adore.
Arrête. C'est vrai, j'ai perdu 12 kilos avec Comme J'aime.
Je connais, Isa l'a fait. Elle a perdu 15 kilos, très vite.
Oui, tu sais, avec Comme J'aime, t'as 4 pas par jour, t'es livré chez toi, t'as plus de courses à faire, on prend soin de toi, c'est hyper simple.
Pour vos kilos en trop, appelez Comme J'aime au 0800 507 507. 0800 507 507.
Appel gratuit depuis un fixe. Pour votre santé, bougez plus. L'heure du crime sur RTL.
Alors, avec Stéphane Bourgoin, qui connaît cette affaire parce que c'est le spécialiste des tueurs en série, nous avons souhaité avoir l'éclairage de Michel Grappard-Delmas, je rappelle, donc psychologue, criminologue, qui a l'expérience de très nombreuses rencontres avec des personnes peu fréquentables, il faut bien le dire. Bonjour Michel Grappard-Delmas.
Oui, bonjour Jacques Pradel, je vous entends très, très mal.
Ah, alors écoutez, on va essayer de rétablir ça, mais nous, pour nous, Tout va bien. Nous, on vous entend bien.
Vous ne pouvez pas faire un tout petit peu plus fort ?
Si, on va faire tous les efforts possibles.
Merci beaucoup.
Alexandre Cagzan est vraiment en train de manipuler tous les boutons possibles et imaginables. Ça y est ?
Merci, ah ben voilà. Ça y est, c'est un petit peu mieux. Oui,
alors,
ça va aller.
Dites-moi, je crois que cette affaire, vous ne la connaissiez pas, mais on vous a transmis le dossier.
Je ne la connaissais pas parce que je suis submergée par les dossiers français et que je n'ai pas trop le temps de regarder les dossiers étrangers. Effectivement, je me suis penchée sur ce dossier. Mais je dois dire que c'est une personnalité qui est absolument effrayante, mais qui est aussi passionnante pour un criminologue, parce qu'il est rare que l'on trouve regroupé dans un seul homme autant de perversité et de perversion, c'est-à-dire d'une part une personnalité pervertie, mais aussi de très nombreuses perversion sexuelle avec du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, de la pédophilie puisqu'il se masturbe devant des enfants ou sur des lits d'enfants, etc. Et puis incontestablement des pulsions homosexuelles qui sont refoulées et je dirais qui sont pas compatibles avec l'image sociale qu'il donne et surtout cet extraordinaire narcissisme tout à fait exacerbé qui le conduit à avoir cette carrière d'un héros finalement, d'un héros militaire. Puis c'est un homme qui a une certaine allure. Moi, ce qui m'a frappé dans ce dossier, c'est finalement la montée en puissance des passages à l'acte. Alors, notre ami Stéphane Bourgoin, que je salue, parle de tueur en série. Non, il n'est pas encore un tueur en série, puisque on ne lui connaît que deux crimes, que deux meurtres.
Il en a vraisemblablement commis trois,
voilà,
de façon quasiment certaine.
Au niveau de la loi, il n'en a commis que deux.
C'est vrai, mais aussi un violeur en série.
Hein. Bien sûr, est une personnalité de multirécidiviste. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça qui ont été interpellés, qui ont été jugés pour deux homicides et pour lesquels j'ai dit à la barre, il a une personnalité de multirécidiviste, de tueur en série, et s'il n'avait pas été arrêté à ce moment-là, il est très vraisemblable qu'il aurait continué.
Alors, Michel Grappard-Delmas, c'est une question évidemment, mais c'est une question très très complexe. Comment on explique justement, vous dites, j'ai été frappé par cette espèce de montée en puissance, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des cambriolages, il est fétichiste, il vole ses sous-vêtements féminins, il va se prendre en photo, il va poser en photo avec ses sous-vêtements sur lui, et puis ensuite, comme le disait Stéphane Bourgoin, il va pénétrer dans les maisons alors que la propriétaire s'y trouve, et puis il va violer, et puis après il va passer au meurtre.
C'est un cheminement qui n'est pas exceptionnel. Ce cheminement de montée en puissance dans la gravité des actes d'abord délictueux puis criminels, ainsi que l'augmentation de la fréquence de ces actes, est un processus très traditionnel parce que à chaque fois, ces individus éprouvent du plaisir et ils essayent de retrouver le plus tôt possible le même plaisir. Mais le plaisir, c'est comme le reste, ça s'émousse. Et à ce moment-là, l'augmentation dans la gravité, dans l'agressivité, dans les perversions va apporter plus de plaisir. Mais il faut aussi rajouter là-dessus son narcissisme qui fait qu'il a qu'il est très fier de ce qu'il fait. Vous le disiez fort justement, ses aveux sont certainement dans le cadre d'une stratégie judiciaire. Mais ce sentiment d'impunité qu'il éprouve fait que vraisemblablement, il peut commettre des actes de plus en plus graves en étant persuadé de ne jamais être identifié. Il est très protégé, cet homme-là. C'est un homme qui est très protégé par sa situation sociale. C'est un type qui est intelligent, qui est cultivé, qui est brillant. En plus, il a des décorations, il a fait une guerre où il a été un héros. C'est un homme qui est marié. C'est vraiment la double personnalité, sans être schizophrène d'ailleurs.
Alors justement, là, Stéphane Bourguin voulait vous poser une question.
Pas du tout, pas de schizophrène.
Je dis que Stéphane Bourguin voulait vous poser une question.
Il a tout.
Pas de remords, pas de repentir.
Ouais, je crois qu'elle nous entend.
Donc une dangerosité criminologique considérable. Et je reste persuadée que les psychiatres n'ont rien trouvé au plan psychiatrique.
Oui, je ne sais pas si vous m'entendez toujours.
Oui, je vous entends.
Oui. Stéphane Bourguin voulait vous poser une question.
Oui.
Non, ce qui est très frappant aussi, et dans son cas précis, c'est que lors des 88 effractions de domicile qu'il commet entre juillet 2009 et fin janvier 2010, il laisse très souvent aussi des messages sur les lieux de ses forfaits. Notamment sur l'ordinateur d'une fillette de 12 ans, il met « merci » en français. Et à une autre au moins de reprise, il avait volé des sextoys à une jeune femme. Et il met un message « vas-y, appelle la police, je veux montrer ton vibromasseur au juge ». Voilà, c'est pour vous montrer à quel point il est arrogant.
Sûr de lui, provocateur, c'est un grand menteur, c'est un grand manipulateur, c'est un peu un profil de pervers, je dirais au maximum, mais c'est un pervers, c'est quelqu'un qui n'est
dans
pas du tout sensible au stress, qui n'est pas du tout sensible au stress, et la pire des choses qu'on aurait pu lui faire, je pensais d'ailleurs dans ce genre de démarche à Michel Fourniret, c'était de faire un procès en huis clos, parce qu'il n'aurait pas du tout eu de public, il n'aurait pas pu faire voir ce qu'il était à tout le monde. Le fait que les avocats et les magistrats aient décidé, parce que devant l'horreur des photos et tout ça, de ne pas les montrer en totalité, ça a été certainement pour lui une très grande frustration.
Alors,
il a besoin d'un public comme tout pervers.
Ouais, je vous remercie beaucoup de cet éclairage,
et
Michel.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment, à bientôt, et justement, dans quelques instants, après une pause avec Stéphane Bourguin, on va en venir à ce procès. Qui a été éprouvant dans tous les sens du terme pour tous ceux qui y ont participé.
L'heure du crime sur RTL.
Nous retrouvons Stéphane Bourguin après l'éclairage que nous donnait il y a un instant la psychologue et criminologue Michel Agrapard-Delmas. Un mot encore sur évidemment l'enquête. La police a vraiment fouillé tout son passé. Personne ne s'est jamais aperçu de rien. Il n'y a pas eu de signal d'alarme, y compris pour son épouse. Il était marié, il avait des enfants, cet homme.
Oui, mais en même temps, faut comprendre qu'il vivait sur deux domiciles différents. Plus un appartement de fonction sur la base à Trenton. Donc, il était de temps en temps à Trenton, de temps en temps à Tweed, et de temps en temps dans la capitale administrative du Canada, à Ottawa.
D'accord.
Donc, il était très souvent seul à son domicile. Parce que
il avait réussi à dissimuler. Il y a eu combien de pièces? Vous avez fait le compte des pièces de lingerie, c'est énorme.
Alors,
rien que pour
une jeune femme, c'était 186 pièces de lingerie différentes pour une jeune femme de 24 ans. Mais c'était des dizaines de milliers de sous-vêtements, à tel point qu'il explique dans ses aveux que de temps en temps, il est obligé de les sélectionner, de faire un tri et de les brûler tellement il en possède.
Mais il arrive à faire ça sans que sa femme, ses enfants ne le voient. Il arrive à dissimuler, je crois, dans le toit. Il a fait une sorte de faux.
Un faux plafond. Et puis un faux plafond dans le garage d'un de ses domiciles.
Ouais.
Et il avait un disque dur et un ordinateur uniquement consacré au stockage des dizaines de milliers de photos qu'il avait prises de ses victimes.
Hein. Ouais. Alors, On se posait la question tout à l'heure, Michel Grappard-Delmas disait, il y a certainement dans ce genre de pervers narcissique un plaisir, hein, malheureusement il faut appeler les choses par leur nom, à ce que ça se sache, une certaine envie qu'on voit ces photos, qu'on les diffuse, et elle disait qu'il avait dû être frustré que, effectivement, la Cour ait décidé de ne pas diffuser les vidéos ou les photos les plus terribles qu'on avait trouvées chez lui. Est-ce qu'il n'a pas quand même été à un moment accessible à un regret ou à des remords? Parce qu'il a fait une tentative de suicide après son arrestation.
Oui, en avril 2010, alors que son procès se tient le 21 octobre 2010. Mais en fait, les psychologues qui l'examinent par la suite disent qu'il a eu envie de mourir, mais pas de vraiment de se suicider. La différence, c'est oui. que c'est quoi ? Le suicide, c'est un peu par remords par oui. rapport à ses actes. Oui. Or, il n'avait aucun remords par ses actes, mm-hmm. mais il ne supportait pas l'idée qu'on saisisse tous ses biens, qu'on l'évoque sur la place publique, sa carrière militaire,
d'accord.
donc son suicide. Donc
c'était plutôt ça le mobile, si j'ose dire, de cette tentative de
voilà,
de
où il tente
alors, qu'est-ce qu'il
de
a fait
s'étouffer avec ouais. du papier toilette, ouais. et au préalable, il a écrit un message avec de la moutarde sur le mur de sa cellule.
Ouais. Hein.
Mais ça, mais pour vous montrer à quel point il est organisé, entre ce moment-là et le procès qui a lieu le 21 octobre 2010, il s'arrange pour transférer la plupart des biens au nom de son épouse, parce qu'il sait d'accord. qu'il va y avoir un procès oui. au civil oui. où on va lui demander des dommages et intérêts d'accord. après.
Donc il essaye d'échapper à ça aussi.
Il essaye aussi d'échapper à ça. Ça vous montre oui. à quel point oui. il a des remords.
Oui, d'ailleurs, on disait que ça a quand même fait beaucoup de évidemment de barouf au Canada, et il y a eu un problème, c'est que l'armée était obligée de continuer à lui verser sa pension, quoi, en fait. Hein,
Il était toujours militaire. Militaire ouais, jusqu'au jugement. Hein.
Ouais.
Et le jugement est prononcé le 21 octobre 2010.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du procès? Il assume, mais il
plaide
coupable.
Froid, hein, ouais. Il plaide mmh. coupable à tous les chefs d'accusation. Il y en a 88 ouais. au total.
C'est ça. Hein. Alors, donc, il y a les meurtres, bien sûr. Il y a des viols.
Il y a deux viols. Il y a les séquestrations.
Ouais.
Et il y a les 82 ouais. cambriolages.
Ouais. Et on lui demande d'expliquer, j'imagine. Et qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'il n'a aucune explication pour ce qu'il a fait.
Voilà.
Aucune.
Il comprend que ça choque évidemment très gravement à la fois l'armée, les citoyens et pour ne pas parler bien sûr des familles des victimes, mais il n'a pas d'explication à donner.
Non, il prétend ne pas avoir d'explication. Mmh. Il lit d'un ton très monotone et monocorde des lettres d'excuses aux familles des victimes, mmh. point barre.
Alors, son avocat plaide coupable, donc on sait que ça ne peut déboucher que sur une condamnation à vie. En fait, il va y avoir plusieurs condamnations,
oui,
toute une série.
Oui, elles se cumulent. Alors, il a deux réclusions criminelles à perpétuité pour les deux meurtres, de Jessica et de Marie-France. Il a 2 fois 10 ans pour les deux viols. Il a 2 fois 10 ans pour les séquestrations de jeunes femmes à leur domicile. Et il a 82 peines d'un an de prison pour chacun des cambriolages.
Ouais.
Et donc,
ça, c'est un peu une spécificité de la loi canadienne, en fait.
Oui, donc tout se cumule.
Ouais.
Il est théoriquement libérable sous conditionnel au bout de 25 ans.
Ouais.
Mais comme il a été labellisé délinquant dangereux, voire même extrêmement dangereux,
ouais.
on peut penser qu'il restera ad vitam aeternam derrière les barreaux.
Alors, vous voyez, je remercie à travers vous, je voudrais remercier ces auditeurs qui ont attiré notre attention sur cette affaire qu'on ne connaissait pas. L'un d'entre eux s'appelle Philippe, il va se reconnaître, et il nous écoute du Canada, parce qu'il est allé s'installer, tenez-vous bien, dans cette région de l'Ontario en 2010, et évidemment il ne pouvait pas passer à côté d'une affaire aussi considérable. Donc merci à cet auditeur, et il nous reste deux, trois petites minutes devant nous, ou 2 minutes, bon. Est-ce que vous qui avez cette expérience, qui avez rencontré en cellule plus de 70 tueurs en série, il vous fait penser à d'autres, ou il a vraiment,
il est unique.
Non, il me fait penser à d'autres tueurs en série, notamment un qui est probablement le pire que j'ai jamais croisé, Gérard Schaeffer, qui là aussi était non pas militaire, mais shérif adjoint au moment où il a commis ses 34 meurtres,
oui.
Qui aussi se photographiait avec les sous-vêtements de ses victimes, qui les pendait, qui utilisait des nœuds compliqués, qui commettait des actes post-mortem,
oui.
Et qui, pour moi, est le pire tueur en série que j'ai jamais rencontré, puisque dès l'instant où je suis face à lui, alors qu'il est charmant et souriant, débonnaire,
c'est ça qui est terrible, en fait.
Il me glace le sang.
Ouais.
Vraiment, je suis tétanisé pendant toutes les journées d'entretien. Et je suis ouais. d'ailleurs en train d'écrire un livre sur ce tueur qui a été surnommé la bête sexuelle, Sex Beast, aux États-Unis. Et on suppose, puisqu'il a été maintenant assassiné en 1995 en prison, qu'il a peut-être commis près d'une centaine de meurtres de jeunes femmes.
Alors, puisque vous parlez d'un livre à venir, je voudrais signaler aux auditeurs 999 ans de Serial Killer, c'est votre actualité, votre dernier livre aux éditions Ring, où on trouve 990 ans de Serial Killer. Il y a vraiment que l'embarras du choix, malheureusement. Mais enfin, il faut dire que si on prend une chronologie plus proche de nous, heureusement, ces affaires demeurent exceptionnelles. Je vais terminer par là, mais je parlais au début de l'émission du choc que ça a fait dans l'armée canadienne, choc au point que, après sa condamnation, l'armée a décidé de brûler toutes ses affaires personnelles, à commencer par ses uniformes.
Ils ont détruit aussi ses médailles, et ils ont même complètement détruit le véhicule, le Nissan Pathfinder, que utilisait le colonel Russell Williams, qui a été ensuite compacté.
Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Stéphane Bourgoin. On va se retrouver bientôt et certainement aussi avec vous, puisqu'on le fait régulièrement quand il s'agit d'affaires de Serial Killer. L'émission est terminée. On retrouvera Flavie Flamand tout de suite après les informations de 15h. Et moi, je vais revenir passer la tête pour vous dire ce qu'on fait demain.